$500 qui est maintenant offert à...
Combien? 800, mettons?
Moins que ça.
$750?
Moins que ça.
700.
650.
Qui dit moins?
Ben là, 500.
Exactement.
J'achète.
Vendu! Tanguay l'entrepôt. Gros surplus d'inventaire, gros rabais, ça vaut le coup. Certaines conditions s'appliquent.
En Suède, le minimalisme n'est pas synonyme d'ennui. Il s'agit d'éliminer le superflu et de perfectionner le reste. Polestar 3, le VUS électrique qui se conduit comme une voiture de sport. Pas de parure, pas de fioritures, simplement le design et la performance perfectionnés. Louez votre Polestar 3 pour seulement $899 par mois sur 12 mois avec $0 d'acompte. Oui, $899 par mois, mais uniquement jusqu'au 1er septembre. Visitez Polestar Ville de Québec ou Polestar.com. Les conditions s'appliquent.
Choix.
Choix.
98. 98. 1. Fameuse.
L'original.
Choix. Choix.
Radio X.
À Québec,
Québec.
C'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
Le diable est arrivé en Pennsylvanie.
Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison.
8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées.
Donc, ça a commencé quand?
À la confirmation des heures.
Le 7 septembre.
Il y a une présence dans le grenier.
Ed, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous.
Saint-Michel, défendez-nous. Soyez notre protecteur. Contre le diable. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment te protéger cette fois.
Bienvenue dans les Radio X-Files. C'était...
On aurait dû demander à Jordan.
Oui, exactement.
Bienvenue dans...
Bienvenue dans les Radio X-Files. En fait, c'est la bande-annonce du nouveau film qui va sortir au Québec, je crois, le jeudi 4 septembre ou dans ce coin-là.
Exact.
Là.
Oui, voilà, le 4 septembre, c'est la Conjuration 4. Les derniers rites, ou le dernier rite, c'est en version française. Et, ben écoute, comme le dit, comme le titre l'annonce, hein, c'est le quatrième de la volée des films La Conjuration. Oui. Et une série, en fait, qui a débuté en 2012, hein, une franchise qui a débuté en 2012 et qui a eu quand même ses produits dérivés, hein, je le rappelle. Là, bon, La Conjuration, le dernier volet, sort en salle le 4 septembre prochain. En théorie, on nous annonce que c'est le dernier de la volée des Conjurations. Donc, le dernier qui va présenter les aventures d'Ed et Lorraine Warren.
Le duo Warren, là, avec
Warren, Ed Warren est incarné par Patrick Wilson. Wilson et Lorraine Warren par Vera Farmiga depuis le tout début de la franchise. La franchise a débuté en 2012 avec La Conjuration 1, qu'on aurait pu traduire par La Hantise chez les Perron, hein, parce que c'est toujours d'après une histoire vraie.
Oui.
Donc, en 2012, le premier volet concernait une hantise qui se serait produite au Rhode Island, chez la famille Perron. Le second volet a été présenté en salle en 2016, qui était le Poltergeist d'Enfield. Enfield, c'est une banlieue de Londres, et les événements qui s'y sont produits, là, c'est 1977, et c'était chez la famille Hoxton à ce moment-là, une mère monoparentale avec ses enfants qui ont été au centre de manifestations d'ordre surnaturel. Le troisième volet, hein, La Conjuration 3, sorti en 2021, et il tournait autour d'une histoire qui s'est produite au Connecticut. En fait, c'est un double volet. D'abord, la possession chez la famille Gladzell. Donc, l'un des enfants de la famille Gladzell aurait été possédé par un esprit démoniaque. Et cet esprit démoniaque, un peu en jouant à saute-mouton, aurait possédé l'ami de cœur d'une des sœurs du jeune possédé, et un type qui s'appelait Arnie Johnson. Et Arnie Johnson a finalement assassiné le patron de son ami de cœur, Alan Bono, une affaire qui avait été amenée devant les tribunaux, bien sûr, parce qu'on est en présence ici d'un homicide. Et les Warren avaient réussi à convaincre l'avocat de la défense, donc l'avocat de Arnie Johnson, de plaider la possession diabolique.
Wow.
Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, ça n'a tellement pas fonctionné. Écoute, pour avoir couvert cette affaire-là dans une série que j'ai fait, qui s'appelait Crime occulte, donc j'ai rencontré, évidemment, j'ai touché à cette histoire-là, j'ai rencontré l'avocat de la défense, le procureur, tout ça, le juge, j'ai eu accès aux scènes de crime, puis tout ça. Le juge, à l'époque, là, contrairement à ce qu'on voit dans le film, là, le juge à l'époque là, a pouffé de rire quand l'avocat a dit mon histoire est possession diabolique. Là, le juge a levé la main, il a fait sortir le jury. Là, il a demandé à ces maîtres Minella, il dit, là, maître Minella, êtes-vous vraiment sérieux là? Vous dites possession diabolique. Minella dit oui. Là, il dit, regardez, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En droit pénal, là, la cause de possession diabolique, là, ça n'existe pas. Donc, vous allez retourner dans votre bureau. Là. On va ajourner la séance, là, mais vous allez me présenter une autre défense. T'sais. Fait que finalement, Minella a dû présenter une défense de homicide par, en fait, légitime défense, là, parce qu'il y a toute une série d'événements qui avaient amené à cette agression. Mais néanmoins, la cause de la possession diabolique, dès les premières secondes, le juge avait rejeté ça complètement. Ce qu'on ne voit pas vraiment dans le film. Là, dans le film, on est là, bien sûr, pour divertir le téléspectateur et le cinéphile. Donc, sont présentés un peu de manière différente. Donc, bref, Conjuration 3, 2021, et puis maintenant le dernier qui sort la semaine prochaine, qui lui tourne autour d'une autre hantise dans laquelle auraient été impliqués les Warren, qui est la hantise de la famille Smurl, oui, qui s'est produite dans les années 80. En fait, qui est une très longue période. Hein, tout ça, elle aurait commencé en fait dans les années 70. Elle aurait perduré pendant pratiquement 15 ans. Les Warren vont arriver dans le tableau là au début des années 80, alors que les Smurl, la famille Smurl, est déjà aux prises avec ces manifestations depuis quelques années. Donc, ça, ce sont pour les films de La Conjuration. Il faut quand même mentionner qu'il y a eu des produits, entre guillemets, dérivés. Donc, des films qui se sont inspirés d'enquêtes menées par les Warren. Il y a eu Annabelle, hein, l'histoire de la poupée Annabelle. Oui, oui. Hein. Annabelle en 2014. Annabelle 2, La création du mal en 2017. Annabelle 3, La maison du mal. On peut le voir que la franchise Warren est une franchise payante et lucrative.
Mais... dès le premier film, moi, je crois pas aux démons, Christian, mais j'aime ça y croire. À chaque fois qu'il y a des histoires de démons, je sais pas, on dirait que j'aime ça. Puis dès que la première Conjuration est sortie, moi, j'ai embarqué dans l'histoire parce que, en faisant quelques recherches, le duo Warren existait pour vrai. C'était basé sur des faits vécus, des faits réels, donc c'était facile d'y croire, là.
Oui, oui. Puis au-delà aussi d'Annabelle, on a eu aussi les films La Nonne, hein, La Nonne 1, 2018, oui, et puis La Nonne, La Malédiction Sainte-Lucie, qui était le deuxième volet en 2023. Mais tu as tout à fait raison. Hein. Si on regarde essentiellement sur le plan cinématographique, Ce sont des films qui sont assez bien menés, qui sont divertissants. Moi, j'ai, tu sais, dans le fond, on regarde ça, puis c'est un film qu'on y croit ou qu'on y croit pas. Si on regarde ça essentiellement sous l'angle du divertissement, parce que ce sont des films qui sont assez bien présentés, puis le suspense est là. Moi, mon préféré demeure quand même le premier, La Conjuration 1, oui. L'entier chez les Perron. Bon, mais si on demeure dans l'univers du divertissement, c'est correct. Là où ça dérape, et ça dérape solidement, c'est à partir du moment où on nous présente ça comme étant des histoires vraies, ou basées sur des histoires vraies, et qui plus est, quand on nous dit c'est sorti des dossiers Warren.
Oui.
Les Warren, il ne faut pas se le cacher, là, on va se dire les vraies affaires, là, ce sont des escrocs. Bon, on a beau essayer de jongler, on a beau jongler de mille et une façons, là, ce sont des gens qui sont, qui apparaissent, en fait, ils vont créer l'organisation, hein, la société de recherche parapsychologique de la Nouvelle-Angleterre, ils vont créer ça dans les années 50, mais vraiment, ils vont commencer à être connus, je dirais, là, dans les années 70, ils vont profiter, en fait, d'un événement, un événement en particulier qui va beaucoup marquer l'imagination. On a cette histoire qui est bien connu maintenant, l'histoire de la maison hantée d'Amityville, hein, qui a donné lieu à toute une franchise également. Donc, rappelons les faits, là, en 1974, il y a un certain Ronald DeFeo Jr. qui a 23 ans. Il va, dans la soirée du 13 novembre, il va abattre toute sa famille. Donc, son père, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Et ensuite, bon, il va inventer toutes sortes d'histoires pour essayer de se disculper. Et puis, il va être arrêté et jugé, condamné à 150 ans de prison pour les 6 meurtres. Et puis, bon, dans toute cette saga, éventuellement, la maison des Féaux, qui est sise au 112 Ocean Avenue, à Amityville. Amityville, une petite ville là, dans la partie sud de Long Island. La maison va demeurer inhabitée. On comprend, une maison où il vient d'avoir 6 meurtres. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'acheter une maison où il y a eu 6 meurtres. Et éventuellement, cette maison, on avance un peu dans le temps. On est en décembre 1975. La maison, qui vaut facilement là, entre 160 et 180 000 $ va être vendu pour la somme de 60 000 $ Bon, avec les arrangements, tout ça, ça monte grosso modo à 80 000
Oui.
Mais bon, et la maison, on a quand même un rabais de 100 000 $ sur la maison.
C'est quand même une grande maison, là.
Oui. Et la maison va être achetée par la famille Lutz. Eux, ils ont 3 enfants à ce moment-là. Ils vont aménager donc dans la maison et puis ils vont habiter là pendant 28 jours. Donc, de la fin, de la fin décembre 1975 à janvier 1976. Et puis ensuite, ils vont quitter la maison, vont raconter que la maison était hantée, qu'il y avait toutes sortes de phénomènes diaboliques. Et puis bon, l'histoire ensuite va donner lieu à un livre, Amityville, La maison du diable, qui va être apporté au cinéma l'année en 1977, dans un film qui met en vedette James Brolin et Margot Kidder, qui va devenir un immense succès de cinéma. Et dans tout toute cette publicité qui tourne autour de la maison, puis il faut quand même le dire, hein, dès le départ, cette histoire de hantise, elle est généralement représentée, elle est généralement critiquée comme étant une fraude. Hein, les Lutz... Moi, pour avoir enquêté sur l'histoire, je reste un peu prudent. Je pense, honnêtement, là, que les Lutz ont cru réellement que la maison était hantée. Mais pas à la façon dont on la présente. Hein. C'est-à-dire, les Lutz emménagent dans la maison. Et puis bon, durant les 28 jours qu'ils vont être là, ils entendent des craquements, des bruits. Ils en viennent à croire que la maison est hantée. Mais ça reste des manifestations qui sont excessivement minimes. Et qui peuvent être dus simplement au vent qui s'engouffre dans la cheminée ou n'importe quoi. Là.
C'est des manifestations. Peut
trouver, là. Non, ce sont des manifestations excessivement légères. Mais par un concours de circonstances, ils vont rencontrer William Weber, qui est l'avocat qui a défendu Ronald DeFeo en cour lors des fameux 6 meurtres. Et là, ils vont concocter ensemble. Les Lutz vont lui confier qu'ils pensent que la maison est hantée. Et là, ben Weber va dire, ben là, au lieu de dire que la porte s'est ouverte tout seul, ce serait le fun si on disait qu'elle a été arrachée de ses gonds. T'sais? Puis quand vous dites que vous êtes réveillé la nuit, là, dites donc qu'au lieu de vous réveiller la nuit, vous flottiez dans la pièce. Tu comprends? Donc, on fait des manifestations légère qu'on transforme au superlatif. Et l'idée de ça, éventuellement, c'est de démontrer qu'il y a des forces maléfiques dans la maison et que ce sont ces forces maléfiques qui ont pris possession de Ronald DeFeo lors des fameux meurtres. Et avec ça, William Weber espère pouvoir introduire un nouveau procès pour son client. Ça fonctionnera pas de cette manière-là. Il va y avoir des disputes entre lui et les Lutz, mais néanmoins, l'histoire est lancée, et puis bon, le livre va sortir, puis ça devient... Amityville devient une machine à fric. Bon, ils n'ont pas peur des mots. Et durant toute cette période, ben, c'est à ce moment-là que les Warren vont sentir un peu la bonne affaire, et ils vont se présenter. En fait, ils vont être contactés par... bon, ils sont déjà un peu connus en Nouvelle-Angleterre. Ils travaillent depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, à des investigations sur des histoires de fantômes. Mais c'est resté très local. L'affaire d'Amityville va vraiment les propulser. C'est-à-dire qu'ils sont, ils vont être rejoints par une chaîne de Long Island. On va les inviter dans la maison d'Amityville. Ils amènent avec eux une médium. Il va y avoir une espèce de séance de spiritisme live à la télé. Et puis là, ben, Lorraine Warren va dire, ah, il y a des entités maléfiques ici, etc. Et cette histoire-là, cette présence-là, cette publicité, en fait, qu'apporte l'affaire d'Amityville au couple Warren va littéralement les propulser sur le devant de la scène. Et là, très rapidement, ils vont se faire un nom. Ils deviennent les chasseurs de fantômes numéro un aux États-Unis. Et là, ben, ils vont enchaîner histoire sur histoire. Bon, et je tiens tout de suite à préciser que j'ai rencontré à plusieurs reprises Lorraine Warren. J'ai rencontré aussi Ed Warren. Mais quand j'ai commencé à... fréquenté, entre guillemets, Lorraine Warren. Ed Warren avait déjà été victime de plusieurs malaises cardiaques. Et quand j'ai commencé à fréquenter Lorraine Warren pour des entrevues et des trucs comme ça, Ed était toujours vivant, mais il était très malade. Okay. Donc, j'ai surtout entrevu Ed Warren. Quand j'allais chez les Warren, hein, il habitait à Monroe, Connecticut, quand j'allais chez les Warren, j'ai entrevu 3-4 fois Ed Warren, qui était très malade. D'ailleurs, à un moment donné, pour souligner l'anecdote, hein, j'arrive là avec un caméraman, Patrice Massenet, un caméraman de Montréal, et... Ed était très malade à ce moment-là. C'était vraiment dans ses derniers moments de vie. Et mon caméraman avait aidé Lorraine Warren à transporter Ed Warren de la chambre, à l'amener à l'extérieur. Et ensuite, on l'avait aidé à rentrer à l'intérieur. Il était très malade. Cela étant dit, et pour ce qui est de Lorraine Warren, si on en parle sur le plan humain, elle était vraiment très au chevet de Ed, hein. Elle c'était une infirmière excessivement dévouée. Elle a pris soin de Ed Warren jusqu'à la fin. C'était une bonne grand-mère, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'étais là, j'étais toujours très bien accueilli. Elle était très conviviale, très chaleureuse. Même pour te donner un exemple, quelques fois j'étais allé là, quand j'y allais avec un caméraman, justement ce même Patrice Massenet, à un moment donné, on est chez les Warren. Et puis, bon, Ed est encore vivant, mais il est alité. Et à un moment donné, Lorraine Warren dit, bon, ben, je vais aller voir Ed s'il a besoin de quelque chose. Et là, elle se lève. Puis là, mon caméraman se fait dire, oh, ça doit faire un 4-5 heures qu'on est là, okay, à discuter. Oui. Là, mon caméraman me dit, écoute, il dit, là, si on se lève pas, puis on s'en va pas, là, elle va se mettre à nous faire des biscuits, oui, puis du petit café, puis tu sais, fait que, bon, ça te montre, tu sais, comment elle était très conviviale. Hospitalière, puis, oui. Très hospitalière. Cela étant dit, et quand je parle des Warren, j'en parle, j'ai pas vraiment connu Ed, mais quand je parle de Lorraine Warren, j'en parle pas sur un plan personnel, j'en parle sur un plan professionnel. Et sur un plan professionnel, c'est un escroc. T'sais, ils n'ont pas peur des mots, là. Les Warren étaient là pour faire du fric et tout ce qu'ils touchaient se transformait en argent et ils exagéraient, multipliaient, inventaient toutes sortes d'histoires dans le but essentiellement de faire de l'argent. C'était ça la motivation, ouais, première des Warren, faire de l'argent. Et dans ce dernier film, dans ce dernier vote, d'ailleurs, hein, je tiens à le mentionner, hein, les Warren, je vais donner le 4 octobre prochain, donc prenez ça en note, ceux qui nous écoutent, le 4 octobre prochain, je serai en conférence à Québec, à l'amphithéâtre Hydro-Québec, à l'Université Laval, dans le pavillon Alphonse Desjardins, et le titre de la conférence, c'est « Les grandes fraudes du paranormal ». Donc, évidemment, je vais parler de tous ces escrocs qui nous ont pendant des années exploités à nous raconter n'importe quelle histoire. Et parmi ces gens-là, bien sûr, je vais abondamment aborder des investigations menées par les Warren et raconter de quelle façon certaines de leurs histoires ont été complètement transformées, mises sur le devant de la scène. Comment les Warren ont joué en coulisses pour faire d'histoires assez banales, finalement, des histoires tout à fait extraordinaires.
Et crédibles, j'imagine, oui.
Comment tu dis?
Incrédible, j'imagine aussi.
Oui, oui.
Ouais.
Donc, cela étant dit, on revient à notre fameux film de La Conjuration 4. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir davantage sur les Warren, je tiens à mentionner que l'an dernier, il y a un ouvrage qui est sorti en français. D'ailleurs, les gens peuvent se le procurer. Il est en français. Ça s'appelle L'imposture Warren. Ça a été écrit par les auteurs. C'est Marie-Madeleine, de son vrai nom Natacha Cornu, et Nova Alexandre, de son vrai nom Alexandre Cornu, donc ils forment un couple. Ce sont les animateurs d'une série web qui s'appelle Occulture, qui est une excellente série. Je te dirais, là, parmi les séries qu'on peut trouver sur le web en français qui parlent de manière rigoureuse du paranormal, c'est probablement, si ce n'est pas la meilleure, c'est certainement l'une des meilleures. Donc, je tiens à le souligner, Occulture, c'est vraiment un détour incontournable sur le web si vous voulez entendre parler de phénomènes paranormaux de manière très critique et très rigoureuse. Et cet ouvrage, L'imposture Warren, est vraiment un incontournable si vous voulez en savoir davantage sur les enquêtes menées par le couple Warren. Donc, cela étant dit, le film, hein, se nous dit, ben voilà, c'est une enquête, on parle de, bien sûr, de La Conjuration 4. On nous dit que c'est une enquête des Warren, hein, une enquête qui s'est tenue entre 1986 et 1987 pour ce qui est surtout de la participation des Warren, quoique l'histoire, on va y revenir, avait débuté longtemps avant. Cette histoire-là a fait l'objet d'un livre qui est sorti en 1988, qui s'appelle « The Haunted, One Family Nightmares ». Et ça a donné lieu également en 1991 à un film éponyme qui a été basé sur le livre. Le livre qui avait été écrit, faut-il le dire, par sur la couverture, on voit le nom de Robert Current en gros, mais en dessous, on lit Jack et Janet Smurl et Ed et Lorraine Warren. Donc, tous font partie de la coécriture du livre en question. Donc, ça nous met un peu sur... dans le bain un peu, quelle est ce qui entoure cette soi-disant hantise,
oui.
Hein, qui sont les personnages principaux, comment cette histoire-là a été véhiculée. Maintenant, on va se faire une petite pause, si tu veux, et après ça, on va raconter l'histoire de la hantise des Smurl.
Avec plaisir, Christian, on fait une courte pause, ne bougez pas, et on revient. C'est une histoire fascinante, faut le dire, j'ai lu un peu là, sur la famille Smurl et toute l'histoire de la maison hantée de cette famille-là. Vraiment, vraiment fascinant.
Que dans des histoires comme celle-là, je parle en mon nom, là, mais moi, souvent, là, je trouve, même s'il s'agit d'une fraude ou d'une arnaque, souvent, les coulisses de l'arnaque me paraissent beaucoup plus intéressantes souvent que l'histoire de fantôme elle-même. Hein.
Absolument.
Comment l'histoire se déforme, comment qui dit quoi, comment il transforme la discussion pour la rendre plus spectaculaire. Moi, je trouve que souvent, sur le plan social, sur le plan de l'investigation, c'est souvent beaucoup plus riche que la simple histoire de dire « Ah, il y a des coups qui sont frappés dans le mur. » Mais on y revient après la pause. Mais
totalement d'accord. Bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
Radio X-Files.
Execute program. Avec Christian Page.
Radio X. En fin de semaine. Écoute, Légende du rock.
Au début de chaque heure.
Mini-concert légendaire. Trois tunes, un artiste. To the back, to the back. Mini-concert légendaire.
En fin de semaine, dans Légende du rock.
Radio X.
Capsule.
Radio X.
Une toile à nettoyer ou à réparer? nettoile.com. Besoin d'une toile sur mesure de qualité? wecover.ca. Avant l'hiver, laissez-nous entretenir et nettoyer vos toiles, incluant auvent, toile de bateau, toile d'hiver et plus. nettoile.com et wecover.ca, ouverts à l'année. Ça frappe fort avec le prix employé Ford chez Donnacona Ford. Jusqu'à 15 000 $ de rabais sur le F-150 et toujours 27 % de plus pour ton échange. Le prix employé Ford, c'est chez Donnacona Ford. Besoin d'une rampe ou d'une clôture de qualité pour votre piscine? Avec Aluminium Perron, installez-les vous-même et économisez. Pour sécuriser, embellir ou moderniser votre espace, nos produits sont conçus pour résister au temps et aux hivers d'ici. Obtenez 5 % de rabais en ligne seulement avec le code promo RadioX au aluminiumperron.com. Vous avez un projet de construction ou de réno? Si vous venez pas chez l'entrepôt de la réno, ben tant pis, vous allez payer trop cher. L'entrepôt de la réno, 9300 John Simons, sortie Chauveau, sur Henri IV.
C'est la grande vente à Yoy chez Super C. On est complètement tombé sur la tête. Cette semaine, les biscuits Maxi Fruit Air, format sélectionné, sont à 1,94 $, puis les ensembles Old El Paso, format sélectionné, sont à 3,47 $. À ce prix-là, ça va danser dans les rangées. Puis rangez pas le barbecue, parce que le beefsteak dans l'Oyo est à 7,99 $ la livre ou 17,61 $ le kilo. Mais ce qui est vraiment capoté, c'est que la grande vente à Yoy, ben ça dure pas juste une journée. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 3 septembre en magasin et en ligne. Détails sur superc.ca.
Chaque année, la rémunération des médecins coûte près de 9 milliards de dollars aux Québécois. Pourtant, 200 000 personnes vulnérables n'ont toujours pas de médecin de famille. Et près d'un million de personnes sont en attente pour une consultation avec un spécialiste. Pour améliorer l'accès aux soins de santé, il faut revoir la façon dont les médecins sont payés. Parce que la santé des Québécois nous tient à cœur. Des changements s'imposent. Un message du gouvernement du Québec.
Tu veux faire un nouveau trottoir, un plancher de cabanon, un nouveau plancher? Appelle ton beau-frère, ton voisin, ton collègue. Appelle qui tu veux. Mais n'oublie pas d'appeler Béton Laurier. Eux, ils vont te livrer le béton qu'il te faut pour réaliser ton projet la semaine et même le samedi. BétonLaurier.com.
Les rabais de la circulaire de septembre sont arrivés chez Mondou. Obtenez jusqu'à 10 $ de remise en points câlins à l'achat de nourriture sèche de marque Akana Classique pour chien. D'ici le 10 septembre, passez en magasin pour d'autres offres incroyables ou consultez lemondou.com.
C'est présentement l'événement Découvrez Mazda chez Mazda Châtel. Obtenez un rabais fidélité de 1,5% à l'achat ou à la location du CX-5 2025, plus un boni Mazda de 500 $. Mazda Châtel, votre concession Mazda de Québec. Sortie Pierre-Bertrand, secteur du Marais.
Le golf automnal, ça se passe au club de golf Le Binière. Profitez de notre promotion de fin de saison en boutique. 25 à 50% de rabais sur la majorité des articles à prix régulier en inventaire. Golf Le Binière, l'excellence à prix abordable. Saint-Gilles, sortie 305 de l'autoroute 20, à 15 minutes des ponts.
Vous cherchez un support à vélo, un coffre ou un support de toit? Chez Rack Évasion, c'est la grande promo tous les 20% de rabais sur presque toute la collection toute la semaine. Profitez-en en boutique. Rack Évasion, votre destination pour équiper chaque aventure. 1240 Charest Ouest.
Salut, c'est moi ton sommeil. Écoute, je profite de la pub de Dormez-vous parce qu'il faut absolument que je te dise que je m'ennuie. Je m'ennuie de nous, je m'ennuie de nos dodos, des marathons qu'on se faisait quand t'étais bébé, des grasses après-midi de ton adolescence. Maintenant, là, tu travailles tard, tu sors tard. Puis, tu sais que tout ça, ça va te rattraper un jour quand tu vas t'endormir puis baver un petit peu sur l'épaule de ton voisin d'autobus. Ah, ça faisait longtemps que je voulais te dire ça. Ça fait tellement de bien, merci, Dormez-vous. Ça me donne envie de chanter. Ah, puis j'y vais. À tabidibidou, dis-nois d'une nuit.
Votre destination gourmande en Beauce, c'est le Saint-Doux Restaurant Barbecue. Une cuisine de style New School Barbecue signée le port de Beau-Rivage, un fumoir de 21 pieds et une immense cour arrière avec bar extérieur, terrasse couverte et ambiance country. Saint-Doux Restaurant Barbecue à Sainte-Marie.
Tanné de parler seul derrière ton volant? Viens jaser avec nous. Transport Hervé Lemieux cherche des chauffeurs classe 1 à Québec. Stabilité, avantages sociaux et une équipe présente 24/7. Postule au transportlemieux.com ou sur Facebook. Transport Hervé Lemieux. Ensemble à destination.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
Dans les Radio X Files sur les ondes de choix 98h Radio X avec Christian Page. Si jamais vous voulez réagir, vous pouvez le faire via la messagerie au 418-670-9098. Puis on en parlait durant la pause, l'histoire du duo Warren avec, bon, l'histoire de la famille Smurl. Vraiment fascinant tout ça.
Oui. Ce que tu me demandais, ben on va remettre un peu les gens durant notre conversation, dans le contexte pendant qu'on était en pause. Tu me posais la question, bon, est-ce que les Warren dans la vraie vie ressemblent aux Warren au cinéma? Ben, les Warren au cinéma, on essaie de leur donner une vision beaucoup plus crédible et surtout beaucoup moins religieuse. Parce que dans les faits, les Warren, c'est des gens excessivement religieux. Donc, tout est interprété à travers ce prisme-là. Hein. Dès qu'il y a une manifestation, c'est toujours le diable, c'est les bondieuseries, l'eau bénite et tout le reste. Les Warren sont très collés là-dessus, alors que dans le film, en fait, même je te dirais que dans la réalité, certains auraient tendance à qualifier les Warren de grenouilles de bénitier ou des bigots. Okay. Alors que au cinéma, on leur donne pas cet aspect-là. Mais dans la réalité, les Warren étaient un peu obsédés par cette idée de religion. Et comme on a dit durant la pause, comme je t'ai dit durant la pause, quand les Warren sortent de... Quand les Warren forment un peu un duo genre Batman et Robin, et quand ils sortaient de la Warren Cave à bord de la Warren Mobile, ben c'est jamais pour aller combattre un petit vilain de second ordre. Hein? C'est un peu comme des super-héros. C'est toujours le super-vilain. Et pour les Warren, c'est toujours le diable. Dès que tu vois les Warren, t'es sûr que le diable est pas loin. Là. Il y a toujours du diable quelque part. Bon. Et c'est ce qui va se produire également dans le cas de la famille Smurl. Donc, je rappelle les faits. Encore une fois, les gens qui connaissent bien cette histoire diront peut-être que je fais un peu des coins ronds, mais on est limité dans le temps. On n'a pas 5 heures pour faire le tour de l'histoire. Mais bon, disons que les Smurl, hein, ils vont acheter en 1973 une résidence qui se trouve à West Pitson. C'est une maison qui est en deux parties. Hein, c'est le 328 et le 330 Chase Street. D'un côté, les Smurl vont aménager. À ce moment-là, la famille est composée de Jack Smurl, qui lui a 30 ans, son épouse Janet a 26. Ils ont une fille, Dawn, qui a 3 ans, et ils viennent d'avoir un petit bébé, là, qui est Heather, qui a quelques mois, là, entre 4 et 6 mois. Ils ont aussi un chien, un berger allemand, qui s'appelle Simon. Et je le mentionne parce qu'il est important dans l'histoire. Et puis la maison, comme j'ai mentionné, elle est coupée en deux. Hein. Eux, les Smurl, habitent à l'adresse civique 328 Chase Street, et l'autre partie de la maison, le 330, il est occupé par les grands-parents des enfants, donc le père de Jack Smurl, à savoir John Smurl, qui lui a 58 ans, et son épouse Mary, qui elle a 59 ans. Donc, t'as un peu le tableau, là. Donc, une maison double.
Bigénération, là.
Voilà, deux générations. Et la maison, ils vont l'acheter 18 000 $ alors que la valeur moyenne de la maison était de 26 000 $ hein, à l'évaluation municipale. Donc, ils paient la maison au moins 8 000 $ Évidemment, quand on pense tout récemment, on a vu les chiffres apparaître là, à Montréal, les maisons dépassent le 1 million. Ouais, là. On dit qu'on a acheté une maison, deux générations, 18 000 $ Ça semble un peu invraisemblable, fou, mais bon, c'est 1973. Bon, disons-le comme ça, c'est une maison qui a quand même besoin de beaucoup d'amour. Hein? À ce moment-là, c'est ce qui explique un peu le rabais sur l'achat de la maison. Et Jack Smurl, qui est un employé dans une usine, qui a un salaire correct, mais rien d'extraordinaire, décide d'entreprendre lui-même les travaux de rénovation. Et à ce moment-là, la maison a plusieurs problèmes, a des problèmes de tuyauterie, il y a beaucoup de moisissures. Et notamment pour le cas de la moisissure, hein, Jack Smurl avait contacté des entrepreneurs, mais le coût était tellement élevé qu'il va décider lui-même d'étendre la chaux sur les murs, notamment les murs au sous-sol. Et la chaux, hein, c'est de l'oxyde ou de l'hydroxyde de calcium. Tu mets pas ta main là-dedans parce que tu vas ressortir un clé. Eaux, là. Donc, c'est supposé tout tuer les bactéries, donc ils couvrent les murs avec ça. Et ensuite, ils recouvrent les murs de panneaux. À l'époque, c'était très populaire dans les années 60 et les années 70.
Le préfini.
Les beaux murs en préfini. Là, donc, oui. toute la maison est sur des murs en préfini. Donc, les manifestations, donc ils emménagent, bon, ils entreprennent ces débuts de travaux, et dès les premières semaines, donc on est au tout début de 1974, il y a des manifestations qui vont commencer à se produire. Hein. Ces manifestations, c'est des coups dans les murs, et là, évidemment, les Smurl diront, c'était toujours 3 coups, parce que 3 coups, ça représente la Sainte Trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc toujours 3 coups. On se réveille à 3 heures du matin, c'est un chiffre qui est très important, c'est dans la Trinité, parce que ça représente la Trinité religieuse, donc des coups frappés dans les murs. On a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Rien de très particulier là, qui pourrait être des courants d'air. Là. On n'est pas encore dans les manifestations superlatives. Là. On a des objets qui disparaissent et qui réapparaissent ailleurs. Bon, encore une fois, on pourrait se dire peut-être que ça nous est tous arrivé. Je disais, il me semble que j'avais mis mes clés sur la table de la cuisine, puis je les retrouve au salon. En fait, c'est un oubli. Bon. Des petits trucs comme ça.
Détails.
Janice Smurl va dire que parfois, il lui arrive d'entendre des murmures, principalement une voix féminine. Et puis, dans la maison, il sent également des odeurs nauséabondes, principalement des odeurs de moisissure et des odeurs un peu comme des odeurs d'égout hein, qui envahissent la maison. Et puis, l'événement qui va un peu changer la donne, hein, on est le 29 avril 1985, c'est le jour de la confirmation d'Eder, donc qui est une cérémonie, là, un passage religieux important dans le christianisme. Donc, Eder doit faire sa confirmation. Et au moment où ils sont réunis à la cuisine, il faut quand même le dire aussi, les Smurfs sont très religieux. Hein, ce sont des gens d'obédience chrétienne, croyants, pratiquants, bon, catholiques. Donc, le catholique, en fait, c'est des protestants, mais ouais. Bon, ils sont très, très, très religieux. Et puis, alors que toute la famille est réunie comme ça dans la cuisine, le plafonnier au-dessus de la table de la cuisine va se détacher et tombe sur la table. Et là, ben, comme on est juste le jour de la confirmation d'Eder, tu comprends que les Smurls vont interpréter ça comme étant une espèce de signe du malin, hein, qui se manifeste en faisant tomber la fameuse... Un peu comme s'il voulait montrer son désaccord par l'idée de cette confirmation. Et là, à ce moment-là... Même le rappeler, là, les Smurls vivent dans cette maison-là des expériences étranges depuis à peu près 12 ans. Et malgré cela, il faut quand même le dire aussi, Jack Smurl ne semble pas très impressionné par ces manifestations. C'est peut-être l'individu... Bon, la mère y croit, ces manifestations d'outre-tombe ou surnaturelles. Elle a un contact plus privilégié avec ses filles. Hein? Ils n'ont que des filles. Hein? Parce que, bon, j'ai mentionné les deux filles, mais Mme Smurl va avoir également... quelques années après, elle va accoucher de deux autres filles, des jumelles, ce qui va agrandir la famille de deux autres enfants. Et ce n'est que des filles. Mme Smurl a un lien très privilégié avec ses filles, et elle est à la maison, donc on comprend que les discussions sont plus intenses entre elle et ses filles, alors que Jack Smurl, lui, travaille à l'usine, et il reste quand même assez sceptique à cette idée-là qu'il y a des manifestations. Bien sûr, bon... Il essaie de rationaliser. Bon, une porte qui s'ouvre, qui se ferme, c'est un courant d'air, etc. Il y croit pas trop. Bon, à ce moment-là aussi, il y a quand même les enfants commencent à dire également qu'ils sont parfois un peu agressés par des forces invisibles. Ils sont poussés en bas de leur lit. Des forces semblent tirer les rideaux, les couvertures de leur lit. Une des filles, la plus vieille de la famille Smurl, va dire « Ben, j'ai l'impression que j'ai été touchée en prenant ma douche de manière inappropriée par des mains mystérieuses et invisibles. » Bon, et ensuite, il y a aussi les enfants commencent à se raconter qu'ils passent d'une pièce à une autre. J'étais dans ma chambre et je me suis retrouvé au salon. Je ne sais pas comment je suis rendu là. Le chien également qui est dans la maison, tout à coup, on ne trouve pas le chien, on ouvre la porte, on s'aperçoit qu'il est dehors. Okay. On commence à croire que les gens, comme l'animal, sont téléportés de l'intérieur à l'extérieur de la maison ou d'une pièce à l'autre. Et puis, ces manifestations ne sont pas seulement dans l'unité de la famille Smurl, mais également chez les grands-parents Smurl qui vivent à côté. Quoique chez les grands-parents, ces manifestations, les odeurs, tout ça sont là, mais les coups dans les murs, etc., sont moins présents que là où il y a de l'autre côté. Donc, il y a un côté qui semble plus atteint par les manifestations que les autres. Et puis, courant 1984, Jack Smurl va devoir avoir une opération au cerveau et on va également diagnostiquer qu'il souffre d'épilepsie. Donc, ça te remet un peu dans le contexte. À ce moment-là, on peut comprendre que les Smurls, on n'a pas la couverture médicale que l'on a ici au Canada. On peut, avec le travail, comme je disais, un salaire correct, mais rien d'extravagant, on peut penser que les Smurls commencent à éprouver des problèmes financiers. L'hypothèque sur la maison, les rénovations, Jack Smurl qui est obligé de prendre congé du travail, les factures de l'hôpital. Donc, on arrive à la fin de 1985 avec les Smurls, visiblement, qui ont des problèmes financiers assez importants. Et par hasard, c'est à ce moment-là que les Smurls vont décider, ils font quelques recherches, et ils vont tomber sur le nom des Warren. Ils vont les contacter. Mais au moment où ils les contactent, Ed Warren, puis j'en ai parlé un peu plus tôt, avait une mauvaise santé. À ce moment-là, au moment où les Smurls le contactent, en décembre 85, Ed Warren a déjà fait une crise cardiaque. Il s'en remet. Et donc, les Warren ne peuvent pas immédiatement se rendre à la maison des Smurls. Ils vont y aller finalement un mois et demi plus tard. Ils débarquent là, on est en janvier 1986. Et tu l'as bien compris, si les Warren sortent de la Warren Cave, c'est forcément, il y a des
c'est
forces.
Gros.
Oui. C'est gros. Donc, très rapidement, les Warren arrivent sur place. Lorraine, qui se dit médium, commence à dire que la maison serait infestée par au moins 4 entités mystérieuses. Il y aurait 2 fantômes de défunts, donc un homme et une femme qui habiteraient dans les lieux. Il y aurait un fantôme de l'ombre. Ça, je dois t'avouer, okay, que c'est un type d'entité qui n'existe que dans le lexique des Warren. Je ne sais pas trop ce que c'est.
Un fantôme de l'ombre.
Et puis, bien sûr, ouais, fantôme de l'ombre. Et il y a un démon. Parce qu'il faut toujours le dire, dans le cas des Warren, il y a toujours un démon quelque part. Et donc, à partir de l'arrivée des Warren, là, on voit que les manifestations vont aller crescendo. À tout le moins, celles qui sont communiquées sont toujours plus fantastiques les unes que les autres. Jack Smurl, qui jusqu'à maintenant était sceptique, va déclarer à la presse que là, maintenant, il est convaincu à 100% que la maison est hantée. Puis, un soir, alors qu'il est étendu dans son lit, s'il y avait encore des doutes, il dit qu'il va être agressé par une succube. Donc, il est étendu, puis là, il y a comme une succube, il faut le dire, c'est un démon féminin qui agresse les gens de manière sexuelle. Et dans le cas de Jack Smurl, j'ai une description de son entité. Donc, il dit qu'il a été agressé sexuellement par cette entité, et voici la description. Hein, il récite et décrit dans le livre qui va être publié quelques années après. Il dit « Pour être honnête, je déteste penser à elle. » Sa peau était blanche comme du papier, mais elle était recouverte à certains endroits de peau écailleuse et à d'autres endroits de plaies ouvertes, du genre de celles que l'on imagine chez les lépreux ou quelque chose comme ça. Ses plaies étaient pleines de pus. Elle avait de longs cheveux blancs ébouriffés et ses yeux étaient tout rouges. L'intérieur de sa bouche et ses gencives étaient verts. Certaines de ses dents manquaient, mais celles qu'elle avait étaient très longues et ressemblaient à celles d'un vampire. Puis elle m'a monté en position dominante et a commencé à me chevaucher. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Je ne me souviens pas avoir ressenti quoi que ce soit d'autre, que de la panique et une terreur totale. Je pouvais dire qu'elle avait des orgasmes, bien sûr, qu'elle avait des orgasmes parce qu'elle donnait des petites secousses. Ça m'arrive trop, ça m'arrive. Elle donnait des petites secousses et son sourire s'élargissait, puis elle a disparu juste comme ça. Elle a disparu. Donc, c'est bravo. Hein? Donc, si Jack Smurl avait encore des doutes sur les entités de la maison, ben là, nous voilà rassurés. Et à partir de là, donc, fidèles à leurs habitudes, les Warren vont prendre l'affaire en main. Ils font des déclarations à la presse, toutes plus sensationnelles les unes que les autres. Ils vont se lancer, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les bondieuseries. Hein, ça fait toujours partie de l'arsenal Warren. Donc, on lance de l'eau bénite sur les murs, les prières, multiplication d'images religieuses et tout le reste. Les manifestations, c'est assez étonnant parce que la presse est invitée à quelques reprises. Il y a des entrevues qui sont faites à la télévision locale à ce moment-là et pour les journalistes. Et quand il y a des journalistes ou quand les caméras roulent ou tournent, il n'y a jamais de manifestation. Mais quand les caméras ne tournent pas, là, les manifestations sont toujours au superlatif.
À l'époque, Christian, les journalistes, est-ce qu'ils couvrent ça de façon... est-ce qu'ils y croient, en fait?
Pas trop. Hein, ça fait partie un peu... Mais on traite ça un peu. C'est bon, c'est le petit reportage amusant en fin de bulletin. Là,
le fait divers.
Voilà. Et puis, bon... les Warren diront éventuellement que c'est le cas le mieux documenté de leur dossier, mais en réalité, il n'y a strictement rien. Ils n'ont tourné aucune image, il n'y a pas de photo. Puis quand moi, j'ai demandé à Lorraine Warren est-ce que je peux avoir accès à ces images-là, il n'y en avait pas, elle ne savait pas où elle les avait mis, il avait disparu. Bon, on peut imaginer tout ce qu'on voudra. Oui. Là. Donc, les Warren n'ont jamais... Si les Warren ont tourné des images ou pris des photographies à ce moment-là, ils n'en ont jamais présenté. Les Warren vont également demander au diocèse local de procéder à un exorcisme. Le diocèse va refuser. Et les Warren, encore une fois, fidèles à leur habitude, vont se tourner vers le père Robert McKenna, qui appartient à une espèce d'église indépendante. Donc, une église indépendante. Hein, donc, au Connecticut, les Warren ont une bonne relation avec lui. C'est un prêtre, pas défroqué, mais c'est un prêtre qui s'est mis un peu au banc de l'Église catholique. Hein, donc, il ne fréquente plus l'Église catholique, il appartient à une espèce de congrégation indépendante. Et lui, quand les Warren demandent de faire des exorcismes, tu peux être sûr que Robert McKenna, il est là. Donc, McKenna se présente, il va faire d'ailleurs 2 exorcismes in situ sur les lieux. Chaque fois... Ces exorcismes vont entraîner une période d'accalmie, mais jamais une accalmie complète. Donc, après quelques jours ou quelques semaines, les manifestations reprennent de nouveau. Et puis, bon, ben, quoi faire de plus? Les Warren, et c'est quand même assez étonnant, parce que les Warren, à ce moment-là, interrogés, hein, et tout ça se dure pendant des mois, là. Et les Warren, hein, multiplient, comme je l'ai mentionné, les interventions à la radio, la télé, les journaux locaux pour parler de cette histoire-là. Et quand on leur demande mais pourquoi... Pourquoi les Smurls? Parce que souvent, dans les cas de phénomènes comme ceux-là, les Warren jouent souvent la carte de « Oui, les enfants se sont peut-être adonnés au jeu Ouija. Oui, les enfants ont écouté un film d'horreur. » Ils trouvent toujours un moyen de justifier. T'sais. Et même, ils pourraient arriver, ils ont mangé un sac de chips humpty-dumpty. C'est du grand n'importe quoi. Mais dans le cas des Warren et des Smurls, les Smurls sont des gens croyants. Ce sont des gens qui sont pratiquants. On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Il n'y a pas d'antécédent que les filles se soient données à du spiritisme, au Ouija, etc. Donc, devant cette situation-là, les Warren déclarent le plus sérieusement du monde, là, et déclarent à la presse que Dieu n'est pas prêt à les aider pour le moment. Que les Smurls subissent une épreuve par la volonté de Dieu. Leur foi a été prouvée par la volonté de Dieu. Bon, ben là, on se dit, on doit avoir un Dieu un peu masochiste, finalement, tu sais. Ben oui, c'est ça. Et à ce moment-là, l'affaire a gagné tellement en importance dans les médias locaux qu'éventuellement, il y a des groupes de chercheurs en parapsychologie de la Nouvelle-Angleterre, des groupes qui font de la recherche sérieuse, et également des associations sceptiques qui vont se présenter pour enquêter sur les phénomènes qui sont observés chez les Smurls, puisque les phénomènes perdurent depuis des années, et à en croire les Warren, ce sont des manifestations qui se produisent au quotidien, des manifestations qui sont tout à fait extraordinaires. Donc, ces groupes-là se rendent sur place, ils demandent à voir, ils demandent à enquêter, et les Warren refusent. Les Warren ont la main mise sur l'histoire.
Ben oui.
Ça leur appartient. Donc, il n'est pas question qu'un autre groupe vienne s'insérer dans cette histoire-là. Et éventuellement, les Smurls vont couper tout contact avec les médias parce que, bon, évidemment, cette situation-là devient assez explosive. Même dans certains cas, ils sont un peu ridiculisés. Ils deviennent un peu les marionnettes des Warren. Ils vont couper éventuellement tout contact. Et puis, en 1988, les Smurls vont vendre la maison et vont déménager. La même année va paraître le fameux livre de Robert Curran, dont je t'ai mentionné un peu plus tôt, The Haunted, qui est d'ailleurs décrié par les autres journalistes comme étant une fraude. Hein? D'ailleurs, Curran va être attaqué de manière assez sévère. Hein? Les journalistes vont... Curran est un véritable journaliste qui travaille dans un petit journal local. Là. C'est quand même pas le Washington Post. Mais les autres journalistes vont dire que Curran a mis de côté son véritable travail de journaliste. Il a perdu tout sens critique. Il s'est laissé embobiner par les Warren. En fait, Curran apparaît comme un peu un auteur fantomatique, hein, c'est-à-dire qu'on lui a proposé un contrat d'écriture de livre, il a accepté le contrat et il l'écrit sans trop se poser des questions à savoir si les manifestations qui se sont produites sur place sont authentiques ou non. D'ailleurs, on va reprocher la même chose à Janssen, qui a écrit le livre sur Amityville, dont je t'ai parlé un peu plus tôt, qui a rendu célèbre les Warren. Dans son livre qui raconte l'histoire des luttes, hein, les 28 jours des luttes dans la maison d'Amityville, Amityville, la maison du diable, qui est un gros succès de librairie, Janssen, à qui j'ai parlé, m'a confié qu'il n'y avait jamais... Il n'a jamais rencontré les Lutz, je ne suis jamais rendu sur place. Les Lutz, ils envoyaient des cassettes où ils racontaient ce qui s'était passé dans la maison et lui se contentait simplement de réécrire ça pour rendre ça, mettre un espèce de suspense. Mm-hmm. Tu sais. Mais il ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était vrai ou non.
Pas, ouais.
D'ailleurs, je peux dire qu'il s'en foutait complètement. Et je pense que dans le cas de Robert Curran, c'est exactement la même chose. Il s'en foutait, mais complètement. La maison, après avoir été vendue, les nouveaux propriétaires, comme les propriétaires précédents d'ailleurs, vont dire qu'il n'y avait strictement rien dans cette maison-là. Ils n'ont jamais vécu de phénomène mystérieux. S'il y a eu des phénomènes étranges, ils ne se sont produits que durant l'occupation des Warren. Il faut dire également que des enquêtes menées par des journalistes et d'autres groupes de recherche ont interrogé des voisins. Et les voisins ont quand même, et là on a peut-être des débuts d'explication, hein, les voisins ont dit qu'il y avait des problèmes sur les canalisations d'égouts dans la rue dans le périmètre. Donc eux avaient des reflux, des refoulements d'égouts dans leur salle de bain, des refoulements d'égouts dans leur sous-sol. Donc il y a des problèmes avec les égouts dans ce quadrilatère-là de la ville. Et donc, quand les Smurls disent on sentait des odeurs nauséabondes,
c'est
pas besoin
probable.
De faire appel aux démons. Pas besoin de faire appel aux démons pour ça. Quand ils disent on sentait des odeurs de moisissure, il faut quand même, si tu demandes à des gens qui font de la rénovation domiciliaire ou même des contracteurs, ils vont dire que mettre de la chaux, s'il y a de la moisissure dans la maison, là, mettre de la chaux sur les murs, ça marche pas. C'est un peu comme couvrir l'odeur. Tu vas la couvrir pendant quelques semaines, pendant quelques
revenir,
mois, mais tôt ou tôt, ça va revenir. La moisissure va réapparaître à travers ça. Donc, les rénovations qu'a fait de son propre chef, Jack Smurl, pour dissimuler ou altérer cet aspect de moisissure dans la maison était inefficace. Et pas étonnant qu'éventuellement, tout ça a repris le dessus et ça passait à travers les fameux panneaux de préfini. En 1991, comme je l'ai mentionné, le livre The Haunted a été adapté dans un film éponyme. Dans ce film-là, ben, Sally Kirkland, pour ceux qui connaissent les comédiens, c'est un téléfilm, hein, pour ceux qui connaissent les acteurs, surtout de la télé américaine, Sally Kirkland jouait Janet Smurl, Jeffrey McDonough, Damon jouait Jack Smurl. Et non, dans le film de 1991, ce n'était pas Vera Farmiga et Patrick Wilson qui jouaient les Warren, mais c'était plutôt Stephen Markle qui jouait Ed Warren et Diane Baker pour Lorraine Warren. Les hypothèses, bien évidemment, quand on regarde ça avec le recul, bon, on se dit que les Smurls, à n'en croire les Warren, et ont vécu ces expériences-là parce qu'ils ont été éprouvés par Dieu. Mais de façon plus objective, on peut se dire qu'il y avait des problèmes. Les Smurls avaient des problèmes d'argent. Ils se sont laissés facilement convaincre par les Warren de jouer le jeu. D'ailleurs, une des techniques des Warren, et on le voit d'ailleurs avec le fameux livre de Curran que j'ai entre les mains là, en ce moment, au moment où je te parle. Et quand tu regardes sur la couverture, c'est Robert Curran, mais on voit en dessous, c'est écrit « With Jack and Janet Smurl and Ed and Lorraine Warren ». Le truc des Warren, c'était toujours d'ajouter les gens dans le contrat d'édition. Parce que quand tu fais ça, tu ne peux plus te dégager. Tu comprends-tu? Les Smurls ne pourraient pas éventuellement dire finalement, ce qui était rapporté dans le livre, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé.
Parce que
là, à ce moment-là, il y aurait un bris de contrat et ils seraient poursuivis pour ne pas avoir suivi, en fait, la politique du livre. Donc, à ce moment-là, ça, c'est une technique que les Warren ont développée et la plupart des ouvrages qu'ils vont écrire, ils vont toujours ajouter sur la couverture et dans le contrat d'édition. Et crois-moi, même dans le contrat d'édition, ils rachetaient les droits d'auteur des gens. Donc, dans le cas là, de Jack et Janet Smurl, il serait pas étonnant, j'ai pas eu le contrat entre les mains, mais il serait pas étonnant, je sais que les Warren l'ont fait dans d'autres cas semblables, ils rachetaient les droits pour des sommes dérisoires et éventuellement, si le livre connaissait un succès de librairie, ben c'est eux qui encaissaient à la fois leurs droits, mais également encaissaient les droits des auteurs qui, eux, touchaient pas finalement le dû qui leur aurait été dû, finalement.
Ouais.
Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que si on remet les choses dans leur contexte, hein, tout ça arrive juste après que Jack Smurl ait été opéré, au moment où ils accumulent les factures, et notamment les factures d'hôpitaux. Les Warren arrivent un peu comme des sauveurs. Hein, ils disent,
Disons que ça tombe à point. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et puis, le fait que... Et moi, dès que j'ai vu le livre, quand le livre est sorti en 88, quand j'ai vu le nom des Smurls sur la couverture, bien évidemment, j'étais pas un spécialiste à ce moment-là. J'avais pas écrit 20 livres comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'étais quand même assez brillant pour me dire, si le nom est sur la couverture, c'est qu'ils doivent sûrement avoir pris... Ils doivent sûrement être mentionnés dans le contrat d'édition. Fait qu'à ce moment-là... C'est sûr qu'on doit suivre, comme on dit, on suit la parade. Et puis, bon, ben, tout ça nous ramène. Ça, c'est grosso modo l'histoire qui a inspiré j'espère que les gens, bon, quand ils iront voir la semaine prochaine, faut pas gâcher son plaisir, hein. Le film est peut-être excellent, comme des autres films de la Conjuration qui demeurent des films excellents quand on les regarde essentiellement sous l'angle du divertissement. Mais bon, quand les gens sortiront de la salle, il faut quand même mettre un sérieux bémol sur l'idée que c'est basé sur une histoire vraie.
Oui.
Les Warren ont tendance beaucoup à inventer parfois ils exagèrent, mais parfois ils inventent racontent complètement des histoires. Rien que de raconter une petite anecdote. J'ai encore le temps?
Ah oui, oui, mettons qu'on prend deux minutes, oui.
On prend deux minutes. Une anecdote assez étonnante. Hein. Dans le cas de la Conjuration 2, hein, je te dis ça, on est toi puis moi. Là.
Il n'y a personne.
Durant la Conjuration 2, c'est l'histoire, c'est le poltergeist d'Enfield. Hein. Enfield, ouais. Ce sont des manifestations, comme je l'ai mentionné, qui débutent. On est en, de mémoire, là, on est en août 1977. Enfield est un quartier très ouvrier de Londres, très pauvre. Et donc, on a Madame Hodgson et ses filles. Deux filles et deux garçons. Il y en a un des garçons qui est pratiquement pas présent au moment où les événements vont se produire. Donc, les manifestations commencent à se produire. Et là, bon, dans le film, hein, quand on voit la Conjuration 2, on voit les Warren qui arrivent là. Et ils sont pratiquement à domicile. Hein. Ils s'installent, je sais pas si tu as vu la Conjuration 2.
Là.
Ben, ils s'installent là. Ils vivent là, dans la maison des Hodgson. Dans les faits, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Okay. Dans les faits, là, la poltergeist d'Enfield avait fait l'objet... Bon, les événements avaient commencé, il y avait la presse en avait parlé, et à ce moment-là, il y avait à Londres une organisation qui existe encore aujourd'hui, qui était très sérieuse, qui est sérieuse aujourd'hui, qui l'était à l'époque, qui s'appelle la Society for Psychical Research. Et lorsque les manifestations ont commencé, il y a des journalistes qui sont allés sur place, ils ont été témoins de manifestations, ils ont contacté la Society for Psychical Research pour leur dire, ben voilà, il y a des manifestations étranges qui se passent dans cette petite maison à Enfield. Et la Society for Psychical Research ont envoyé deux enquêteurs dénommés Paul Gross et un type qui s'appelle Guy Lyon Playfair, qui sont allés sur place pour enquêter. Et là arrivent les Warren. Mais voici comment ça se passe dans les faits. Les Warren débarquent à Londres pour donner une conférence sur les phénomènes de hantise. Et là, quelqu'un leur dit, avez-vous vu dans le journal, on parle d'une histoire de fantôme à Enfield. Les Warren, et là, je le tiens de la bouche même de Guy Lyon Playfair, là. Donc le gars qui est là, là. Donc les Warren disent, hey, wow, c'est une bonne histoire, on pourrait faire de l'argent avec ça. Ils vont faire un détour, ils vont se rendre à la maison à Enfield, et là, ils frappent à la porte, et c'est Guy Lyon Playfair qui ouvre la porte. Et là, il dit, et Playfair me disait, moi, les Warren, je les connaissais pas vraiment, je savais qui ils étaient, j'avais leur nom, mais j'avais pas de contact avec eux. J'ouvre la porte, et là, je les vois, là, ces deux-là, le couple, il est devant la porte. Puis là, ils se présentent comme s'ils étaient des super-héros. Oui, nous sommes les Warren, comme si tout le monde devait savoir qui ils étaient. Playfair dit, oui, vous voulez quoi? Puis là, ils disent, on voudrait vous parler. Ils sont allés dans le jardin à l'extérieur. Et pendant que Lauren Warren parlait avec les filles Hodgson, qui étaient à l'extérieur, qui jouaient près de la balançoire, Ed Warren prend un peu à part Guy Lyon Playfair, puis il lui dit, écoute, il dit, si tu veux faire du fric avec cette histoire-là, moi, je peux m'arranger pour que faire de la promotion, puis en parler, puis on va se partager les droits, puis on va faire de l'argent avec ça. Guy Lyon Playfair a été tellement choqué de voir ça, qu'il a... Passe-moi l'expression, mais crissé d'or.
Oui.
Il a dit, là, vous ramassez vos clics, vos claques, vous sacrez votre camp. La présence des Warren à Enfield a été à peu près de 10 minutes.
Non. Hein? Ils n'ont pas habité là.
10 minutes, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien partout. Ils se sont littéralement fait mettre à la porte. Mmh. Et là, éventuellement, ils vont raconter cette histoire-là comme s'ils y étaient. Ouais. Les filles Hodgson, d'ailleurs, vont dire plus tardivement, ils étaient des adolescentes à l'époque, mais plus tardivement, quand le film va sortir, ils vont dire, on se rappelle avoir vu Lorraine Warren, on y a parlé 15 minutes dans le jardin, puis ça a fini là. Les Warren vont monter toute une histoire autour de ça, alors qu'ils n'ont été présents sur place qu'une quinzaine de minutes, et ils se sont fait chasser à grands coups de pied dans l'arrière-train, là, pratiquement, pour s'admettre à la portée.
Ouais.
Fait que tu vois, sur pas grand-chose, les Warren peuvent te faire une belle grosse histoire basée sur une histoire vraie.
Voilà. Donc, le film La Conjuration 4 va sortir la semaine prochaine au cinéma ici au Québec. Rappelons également ta conférence, Christian, sur les grandes fraudes du paranormal. Ça se passe à Québec le 4 octobre prochain, hein?
Oui, Amphithéâtre Hydro-Québec, hein, c'est le pavillon Alphonse Desjardins, l'Université Laval. Les gens qui veulent savoir comment y participer, comment avoir des billets, tout ça, je les invite à aller sur mon site Internet qui est le christiantradunionpage.com. christiantradunionpage.com, et à ce moment-là, ils vont trouver à la fois toutes les informations sur la conférence, où, quand, comment, le coût et tout le reste, et comment réserver sa place en salle, tout le reste.
Avec l'automne qui s'installe en ce vendredi, on va aller écouter un bon film d'horreur.
Oui, absolument.
On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Christian Page, merci infiniment, et à la semaine prochaine.
Ça me fait plaisir. Ça marche. Ouais. Salut.
Radio X-Files.
avec Christian Page.
Radio X.
J'aime pas aller chez le dentiste, payer mes impôts et les embouteillages. Mais depuis que l'équipe Marie-Ève Morin Dentiste s'occupe de ma bouche et de celle de ma famille, j'aime toujours pas les embouteillages. Mais j'ai plus peur d'aller chez le dentiste. Mon fils Alexandre y va pour son traitement d'orthodontie. Ma blonde et mon petit Paul pour leur nettoyage. Moi, le grand anxieux qui avait peur du dentiste, a finalement eu son implant. L'équipe Marie-Ève Morin Dentiste, c'est vraiment différent. Une approche humaine, des explications claires, pas de pression, juste des solutions. C'est ça, l'équipe Marie-Ève Morin Dentiste.
Salut, ici Marie-Ève du Los Valderas, resto de cuisine authentique mexicaine à Saint-Étienne. T'es passionné de cuisine? On cherche un cuisinier proactif avec plein d'idées. Intègre notre équipe stable et humaine dans une super ambiance. Ça te parle? Écris-nous sur nos réseaux sociaux ou visite lelosvalderas.com.
Les prix employés Ford sont en cours et vous payez ce que nous payons pour un nouveau Ford. Visitez votre détaillant Ford du Québec ou Ford.ca.
Vapo-Shop, c'est votre boutique d'articles pour vapoteurs et fumeurs. Vapo-Shop, c'est aussi un service à la clientèle hors pair et des produits de qualité pour tous les styles d'utilisateurs. Visitez-nous à Lévis, Montmagny et dans 8 boutiques dans la grande région de Québec. Vapo-Shop.ca.
Vous cherchez un support à vélo, un coffre ou un support de toit? Chez Rack Évasion, c'est la grande promo tous les 20% de rabais sur presque toute la collection, toute la semaine. Profitez-en en boutique. Rack Évasion, votre destination pour équiper chaque aventure. 1240 Charest Ouest.
Votre destination gourmande en Beauce, c'est le Saint-Doux Restaurant Barbecue. Une cuisine de style New School Barbecue signée le port de Beau-Rivage, un fumoir de 21 pieds et une immense cour arrière avec bar extérieur, terrasse couverte et ambiance country. Saint-Doux Restaurant Barbecue à Sainte-Marie.
Les produits Benjamin Moore sont vendus exclusivement par des détaillants indépendants. Chaque achat aide à soutenir les communautés canadiennes.
Monster Spectacular débarque en Beauce. Le spectacle familial par excellence sera à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction le samedi.